Mathieu Noël.
Voici pour les titres de ce 15 avril, et non pas ce 15 mai comme quelqu'un me l'a écrit, parce qu'on n'est pas encore en mai, et l'actualité, là, tout de suite, c'est aussi la diffusion depuis 3 heures ce matin du premier épisode de la 8e et dernière saison de la série culte Game of Thrones sur la chaîne payante OCS. Bonjour Philippe Bailly.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, vous êtes le directeur de NPA Conseil, cabinet spécialisé dans la mesure d'audience des plateformes vidéo. Alors, que l'on aime ou pas les fictions, que l'on soit fan ou pas de Game of Thrones, on connaît tous la série phénomène. Pour faire simple et pour ceux qui connaissent pas, 67 épisodes ont été diffusés depuis 2011, une saga médiévale fantastique, sorte de mélange des Rois Maudits et du Seigneur des Anneaux, même si les puristes vont m'étriper, avec plusieurs familles qui se battent pour un trône, une folle saga totalement addictive, portée par une réalisation souvent magistrale, des personnages profonds, de la violence, du sexe, du politiquement incorrect, mais aussi du grand spectacle. Il y en a en fait pour tous les goûts dans Game of Thrones, c'est ça qui fait la clé du succès.
On peut le voir, on peut regarder la série à différents niveaux, effectivement, simplement comme quelque chose d'épique et des personnages auxquels on s'accroche, d'ailleurs parfois à tort parce qu'il y en a un certain nombre qui ne passent pas l'épisode pendant lequel on serait.
174 373 personnages ont été tués dans les dans les 7 saisons qui ont déjà été diffusées.
Mais là vous comptez les figurants.
Ben non, mais je vous assure, non.
174 000, oui, j'avoue que j'avais pas ce décompte en tête. En tout cas, vous pouvez vous attacher.
Il faudra vérifier, c'est les Marocains. Hein.
Et puis vous pouvez y voir des lectures plus deuxième, troisième, voire 18e degré politique, sociologique, etc. Enfin bref, c'est effectivement une série dans laquelle chacun peut trouver ou peut prendre ce qu'il veut faire. Et puis la preuve quand même de la force de cette série, c'est que, vous l'avez dit, le président de la République a différé de 24 heures, je le sais de source sûre, a différé de son intervention de fin de grand débat parce qu'il voulait pas être face à Game of Thrones.
Mais ça, il a bien raison, parce que c'est difficile d'être face à Game of Thrones. Non, mais on disait, c'est vrai que chacun y trouve son compte. Les ados en quête de grands spectacles, les amateurs de science-fiction, d'heroic fantasy qui y trouvent les dragons, et les journalistes intello du Monde qui disent, je cite, « La série est un véritable bréviaire de philosophie politique, de Machiavel à Hobbes, du Moyen-Âge à l'histoire récente, ses références sont multiples. » On sent qu'en fait, tout le monde trouve quelque chose dans Game of Thrones, et peut-être cette dimension effectivement politique. C'est vrai qu'il y a du Machiavel là-dedans, c'est vrai qu'il y a du Hobbes, il y a du Léviathan là-dedans, dans la violence politique de comment
la lutte pour le pouvoir,
comment s'installer au pouvoir et comment le conserver par tous les moyens possibles.
Absolument, et en même temps, il y a quand même derrière cette vision politique, philosophique, etc., il y a aussi quand même beaucoup de marketing.
Ah oui,
et ça. Une série qui, de ce point de vue, est assez irréprochable dans sa capacité à avoir démarré un jour, en 2011. On est aujourd'hui 8 ans plus tard, et on sait que dans un monde numérique, garder l'attention, c'est quelque chose de compliqué. Et ben, non seulement la communauté est toujours là, mais les audiences dans l'intervalle ont été multiplié par 4 aux États-Unis entre la saison 1 et la saison 7.
C'est ça que j'ai demandé. Est-ce que le succès a été immédiat? Est-ce que la première saison, ça a été un immense carton? Ou est-ce qu'en fait, la 7e, par exemple, était plus...
Eh ben non, effectivement, ça n'a pas été totalement immédiat. C'est d'ailleurs ce qui doit créer encore plus d'angoisse chez les producteurs d'HBO. C'est-à-dire que saison 1, 2,5 millions de spectateurs aux États-Unis, démarrage honorable, mais on n'était pas dans un carton immédiat.
On n'était pas dans le phénomène.
Et saison 7, donc, dont la diffusion s'est terminée en août 2017, 10 millions et quelques en moyenne, ça a été multiplié par 4. Combien de séries en télé peuvent se prévaloir de voir leurs audiences multipliées par 4 entre la saison 1 et la saison 7?
Joséphine Ange-Gardien, peut-être, je ne sais pas.
Dans 186 pays, hein, c'est ça, 186 pays qui diffusent la série.
Plus tous ceux dans d'autres pays encore qui la voient sans doute de manière pirate, puisque c'est aussi une des caractéristiques d'être la série la plus piratée. Plus de 160 millions en moyenne par épisode, donc versus les 12 millions de téléspectateurs dont on parlait. Enfin, c'est colossal.
Est-ce que le succès, je cherche toujours les origines du succès de Game of Thrones, est-ce que c'est pas que, contrairement à beaucoup de séries qui résultent du travail d'une dizaine de scénaristes, donc il y a forcément des compromis sur les personnages, sur l'histoire, là c'est l'œuvre d'un homme, George R.R. Martin, en tout cas c'est son univers propre et ses livres. Est-ce que c'est pas ça qui explique finalement que les personnages soient si forts, si bien construits, que tout soit si bien pensé, et que tout émane d'un seul esprit finalement? C'est pas ça qui fait l'unicité de la série?
Je sais pas, en principe, dans une série, il y a effectivement une multiplicité d'auteurs, mais il y a quand même un showrunner qui est là pour...
Certes, pour assurer une cohérence.
Voilà,
mais là, le fait que ça soit lui qui écrit les livres, du coup... Je sais pas, c'est peut-être ça apporte une dimension particulière à Game of Thrones, disais peut-être.
Non mais c'est parce que je reconnais votre affection particulière pour J.K. Rowling, c'est du coup vous transposez.
Oui, c'est peut-être ça, c'est vrai, c'est ça. Alors, est-ce qu'en France, on pourrait faire un Game of Thrones où ça coûte trop cher? Ça coûte combien par épisode? Je crois que les chiffres sont...
Ça coûte entre 10 et 15 millions de dollars
tout,
par
épisode. Hein.
Ce n'est pas du tout le prix d'une série habituelle, c'est beaucoup plus cher.
Absolument, on dit 130 millions de dollars même pour la saison pour 8, sur 6 épisodes, c'est le coût d'un gros film, une très grosse production comme on en voit peu et en tout cas particulièrement en France. La capacité à faire Game of Thrones en France, personnellement j'en suis sceptique parce que tout simplement le genre science-fiction, fantastique, etc. est un genre très peu travaillé en France, sur lequel du coup on manque d'auteurs à la hauteur de ce qu'il faudrait. Et puis sans même parler de la dimension financière comme on le relevait à l'instant.
Et alors pour ça, c'est la dernière saison qu'on voit là. Il n'y en aura pas d'autres. On parle d'épilogue. L'épilogue, c'est la fin. Donc,
oui.
Absolument.
Mais c'est pas la fin des livres de l'auteur dont je vous parlais, R.R. Martin. Alors pourquoi il n'y a plus de saison de Game of Thrones derrière?
Parce qu'à un moment, d'abord, savoir boucler une série, c'est bien. Et il y a trop d'auteurs qui devraient s'en inspirer. À un moment, savoir mettre proprement un mot fin, c'est aussi un cadeau et un respect fait à ceux qui regardent. Mais au-delà, est-ce que demain il y aura encore Game of Thrones? Non. Est-ce qu'il y aura des spin-offs, des sequels, des préquels, etc.
D'accord.
Ça, j'en donnerai pas, je n'en jurerai pas.
Merci beaucoup Philippe Bailly, président de NPA Conseil, d'être venu en studio ce matin. On rappelle que la série est visible en France sur la chaîne payante OCS jusqu'au 19 mai. Et tout à l'heure, dans la matinale de Nikos Aliagas, nous évoquerons le travail scientifique des chercheurs qui ont décrypté la série et le sort des personnages au travers d'algorithmes. Ça promet d'être passionnant. Merci d'avoir été avec nous.